Vous êtes sur RTL.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la ministre des Armées, Florence Parly.
Oui, bonjour Florence Parly.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin, et parce qu'il y a beaucoup d'interrogations après que Trump a unilatéralement annoncé le retrait des Américains et de Syrie et d'Afghanistan. La première question nous concerne directement. Nathalie Loiseau, votre consoeur aux affaires européennes hier, a dit que les forces françaises avaient vocation à rester en Syrie malgré le retrait américain. Vous confirmez ?
D'abord, bonjour Elisabeth Martichoux. Je voudrais rappeler aux Français que nous sommes présents au Levant depuis 2014 dans le cadre d'une coalition qui est dirigée par les Américains. Et dans ce cadre-là, nous avons un peu plus de 1000 hommes qui sont des aviateurs, qui sont des artilleurs et qui opèrent sur la zone et qui effectuent un certain nombre de bombardements. Par exemple, en ce moment même, sur cette poche d'Adjin qui est à la frontière entre l'Irak et la Syrie, qui est un des derniers bastions de Daesh que nous voulons absolument éradiquer, parce que ce califat territorial doit être éliminé. Et puis nous avons des artilleurs également qui contribuent à cette opération aux côtés des Américains. Donc voilà ce que nous faisons. Au Levant, nous avons des artilleurs et des aviateurs qui interviennent sur la totalité de la zone.
On peut traduire, Florence Parly ? Vous nous dites qu'il n'y a personne en Syrie ? Il n'y a aucun soldat français au sol en Syrie ? Les 200 soldats militaires, alors 200 quelques centaines, dit-on, ils n'existent pas ?
Je vous dis que nous avons des avions, que nous avons des artilleurs qui en ce moment même opèrent, et ils opèrent de façon à toucher des points du territoire syrien.
Donc, pour être clair, vous ne nous confirmez pas ce matin ce qu'a dit hier votre consoeur du gouvernement, à savoir que les Français restent en Syrie, quel qu'il soit, parce que...
Je suis ministre des Armées.
Ouais.
Je n'ai pas à commenter ce que mes collègues du gouvernement...
Soyons clairs, est-ce qu'elle n'aurait pas dû dire cela?
Je pense que c'est un abus de langage. Et je vous donne ma vérité. Ma vérité, c'est que nous avons des aviateurs et des artilleurs qui interviennent dans le cadre d'une coalition dirigée par les Américains et qui touchent en effet des points du territoire syrien.
Est-ce que ces artilleurs, ces aviateurs, etc. peuvent se battre sans l'appui américain ? Est-ce que ça ne risque pas de les mettre en danger ?
Alors, il est évident que la décision qui a été prise par le président Trump est une décision qui change assez profondément la donne. C'est la question de la présence de la coalition au Levant est une question qui a été longuement débattue depuis des mois entre les différents membres de la coalition et les États-Unis. Le président Macron a convaincu, je crois qu'on peut dire les choses ainsi, le président Trump il y a quelques mois de prolonger la présence de la coalition pour une raison simple. C'est que cette coalition est présente au Levant avec un seul objectif, c'est de lutter contre le terrorisme. Et vous savez bien que nous, la France, nous avons payé un lourd tribut au terrorisme. Nous savons que les attaques terroristes du Bataclan ont été initiées à partir de Raqqa. Et donc, nous voulons, je ne dis pas plus que les autres, mais nous sommes très attachés à ce que cette lutte contre Daesh se termine.
Trump dit que Daesh est mort.
C'est là que nous avons une différence d'analyse avec nos partenaires américains. C'est que lorsque le président Trump dit que Daesh est mort, nous considérons qu'aujourd'hui, si le califat territorial n'est plus ce qu'il était en 2014, lorsque Daesh était à la tête d'un quasi-État qui était grand comme le Royaume-Uni, qui avait plusieurs millions d'habitants, qui battait monnaie, qui gérait des infrastructures. Bref, c'était quasiment un État. Aujourd'hui, cet État est réduit à peau de chagrin, mais il reste encore une poche dans laquelle les djihadistes de Daesh sont centrés, sont repliés, et nous considérons que ce travail-là doit être terminé. Et c'est pour ça,
quand Donald Trump dit « nous avons vaincu l'État islamique en Syrie », pardon d'être direct, mais il dit n'importe quoi.
Je viens de vous dire que nous ne partageons pas du tout l'analyse selon laquelle le califat territorial serait anéanti.
Donc vous contredisez le président américain.
Et on a le droit d'avoir des divergences d'analyse entre partenaires.
Est-ce qu'il prend le risque, clairement, de relancer la machine de Daesh ?
Le risque, c'est, en ne finissant pas ce travail, c'est en effet de laisser perdurer des groupes et que ces groupes reprennent leurs activités et que, au-delà du califat territorial, ils puissent agir sur un territoire qui est au moins aussi grand que celui de l'Europe.
Donc, il a pris une décision dangereuse pour l'avenir du terrorisme.
C'est une décision extrêmement lourde et nous pensons, nous avons toujours pensé, et le président Macron a répété avec beaucoup de force et jusqu'à présent beaucoup de succès, le fait que ce travail devait être terminé parce que la lutte contre le terrorisme, c'est un sujet d'ordre international qui a des implications très fortes pour notre pays.
Vous l'avez dit, Emmanuel Macron avait gagné un répit il y a quelques mois en convainquant effectivement Donald Trump de rester en Syrie. Est-ce que pour vous, la décision de Trump, là, elle est irréversible? Ou est-ce qu'Emmanuel Macron essaye? Est-ce qu'il l'a appelé? Est-ce qu'il veut? On peut encore espérer qu'il revienne sur sa décision?
Je ne vais pas...
D'enlever ces 2000 hommes de Syrie.
Je ne vais pas dévoiler les échanges qui ont lieu.
Est-ce qu'il y en a eu
des échanges qui ont lieu? Et nous verrons comment cette décision sera effectivement mise en œuvre. Les modalités de la mise en œuvre sont importantes.
Le calendrier, justement, vous le connaissez? Est-ce que d'ici un mois, les 2000 soldats américains sont partis de Syrie?
Les modalités de mise en œuvre de ce retrait sont en cours de discussion.
Elles sont importantes. Est-ce que, si c'est très progressif, ça permettrait quand même de continuer à organiser la lutte contre Daesh, malgré tout? Ou si c'est très brutal, là c'est la fin?
Il y a d'abord des considérations pratiques. On ne peut pas retirer des troupes du jour au lendemain. Donc je pense que ce sont des sujets auxquels l'état-major américain réfléchit. Et puis comme je l'indiquais il y a quelques secondes, aujourd'hui encore, hier encore, la coalition est intervenue, a agi. Et donc je pense pouvoir dire que dans les prochains jours, il y aura encore, en tout cas du côté des forces françaises, une activité dans le cadre que j'ai rappelé tout à l'heure.
Donc dans les quelques jours, vous dites, ça ne change rien pour nous dans quelques jours.
Parce que nous avons un travail à finir.
Mais donc nous restons, où que ce soit, vous dites, vous ne voulez pas dire que c'est en Russie, en Syrie pour lutter contre Daesh, mais autour, nous restons. Mais à terme, est-ce qu'il ne faudra pas alléger le dispositif? Est-ce que c'est une réflexion que forcément vous allez devoir avoir, si je
Comme
peux dire.
Comme je l'ai indiqué, les modalités de mise en œuvre de la décision d'un pays qui est à la tête d'une coalition internationale sont en cours de discussion.
Parce qu'on se dit quand même que nos hommes, vos hommes, enfin nos compatriotes, peuvent être mis en danger par le départ des Américains, qui apportent un appui de renseignement, qui apportent un appui logistique, qui peuvent venir chercher, si on est blessé, un de nos soldats par
Elisabeth
hélicoptère.
Martichoux,
ça n'existera plus.
Souvenons-nous des retraits qui sont intervenus il y a encore quelques années. Un président américain, qui n'est pas le président Trump, a décidé de se retirer d'Afghanistan. Souvenez-vous du temps que cela a pris pour rendre effective cette décision. Voilà, donc il y a des considérations pratiques de tous ordres qu'il faut prendre en compte.
Trump déstabilise l'Iran en dénonçant l'accord nucléaire il y a quelques mois. Et il renforce l'Iran en quittant la Syrie, puisque de fait, il livre d'une certaine façon le pays à la Syrie, à Bachar el-Assad, aux Russes. Est-ce que là, de quelques bouts qu'on prenne ça, c'est complètement incohérent?
C'est ce que nous avons plaidé pendant des mois, c'est-à-dire que l'action de la coalition au Levant est aussi une action qui permette d'éviter l'influence régionale de l'Iran dans cette zone du Proche et du Moyen-Orient. Donc, nous savons que le président Trump est décidé à exercer une pression maximale sur l'Iran.
Non, mais là,
On peut s'interroger
sur la cohérence,
L'impact de la décision qu'il vient de prendre au regard de son objectif concernant l'Iran.
Alors, votre homologue américain va au-delà de l'interrogation. Il part. Il a claqué la porte. Jim Mattis, le secrétaire à la défense, le patron du Pentagone. Vous connaissez bien Jim Mattis?
Je le connais bien, oui. Bon, c'est un collègue
c'est un coup
avec
dur.
Lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup de contacts.
C'est un coup dur pour vous, pour nous?
je n'ai pas à commenter les décisions du président des États-Unis. Ce que je peux dire, c'est que c'est un collègue que j'apprécie énormément, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est un grand soldat, ça a été un remarquable ministre, et que ça a été un partenaire de tous les instants. Et je fais référence en particulier au moment très difficile que nous avons partagé ensemble lorsqu'il s'est agi de préparer la riposte contre les attaques chimiques en Syrie il y a quelques mois.
Il reste très peu de temps. Deux questions importantes. On revient en France. Les gilets jaunes, vous suivez la crise. Les plus de 10 milliards qu'on débloque sous la pression de cette crise et qui vont aussi aux policiers, demain à d'autres professions, qui vont revendiquer aussi à leur tour des efforts budgétaires. Est-ce que les 40 milliards de budget de 2019 pour la défense ne peuvent pas être en partie utilisés demain pour servir la cause sociale, pour financer cet effort social qui devient indispensable.
Vous savez, le ministère des Armées, il contribue à l'action collective du gouvernement, notamment par la lutte qu'il mène contre le terrorisme. On a parlé de l'extérieur, mais il y a aussi la lutte à l'intérieur, sur le territoire national. C'est tout le rôle de la force Sentinelle.
Est-ce qu'on va vous demander de réduire votre budget?
Et notre budget, il vient d'être adopté. Ça, c'est une première nouvelle. Le budget pour 2019, qui est en forte croissance. Et au 1er janvier 2019, se met en place la loi de programmation militaire qui prévoit...
Madame Parly, vous avez dit il y a quelques jours, il n'est pas exclu qu'on révise notre budget.
Eh bien, je vous annonce que le budget 2019 est voté, que la loi de programmation militaire s'appliquera. Voilà ce que je vous annonce.
Vous dites aux militaires ce matin, on ne touchera pas un sou du budget l'année prochaine.
J'y veillerai personnellement.
D'accord, vous en serez garante. Vous dites, pas touche, encore un mot, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Le djihadiste français Peter Sherif, proche des frères Kouachi, auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo, a été arrêté. On l'a appris hier, c'était le 16 décembre à Djibouti. C'est une bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle, parce que ce terroriste a joué un rôle important dans l'organisation de l'attentat contre Charlie Hebdo. Cela prouve que la lutte contre le terrorisme est une action de très longue haleine et que lorsque on garde cet engagement et cette détermination, eh bien, on parvient à des résultats. Et donc, c'est une très bonne nouvelle.
Et ça renforce votre conviction que c'est un mauvais coup qu'a porté Donald Trump en annonçant l'affaiblissement des forces américaines sur place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.